Ludovic, le livre a été publié une première fois en 2013 et il y a une réédition en 2022. Pourquoi cette récente réédition ?
Le livre de 2013 correspondait à une envie, qui était une envie ancienne, qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs, et en particulier, je trouvais qu'il n'existait pas en français une synthèse sur la chasse aux sorcières qui soit satisfaisante. Il y avait les ouvrages anciens de Robert Muchamblay qui restent encore très très importants, très intéressants, mais j'avais envie d'écrire quelque chose qui soit à la fois destiné à des étudiants, à un public élargi, et puis à des enseignants-chercheurs. Donc une synthèse sans notes de bas de page, mais adossée à la littérature scientifique, à la recherche. Et puis quelque chose d'assez personnel, il y a dans mon petit livre de 2013 du Foucault, de l'actualité, voilà. Et puis je ne suis pas sûr que ce livre à l'époque était, comment dire, énormément diffusé. J'avais eu des témoignages qui m'avaient fait très plaisir, hein, de collègues, de chercheurs. Sur ces entrefaites est arrivé le livre de Mona Chollet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », qui est un rouleau compresseur, un best-seller, hein, qui est un livre qui n'a pas grand-chose à voir avec le mien, un livre qui défend un combat. On peut penser ce qu'on veut du livre, le combat est important, il est légitime, et ça ne me dérange pas du tout. Mais il est clair que rééditer mon petit livre en reprenant Sorcière comme titre, ça devenait compliqué. Or, en 2022, enfin 2021, j'avais envie, en répondant aussi à la sollicitation de l'éditeur Armand Collin, d'actualiser mon ouvrage, de rajouter certains passages. J'ai en particulier rajouté pas mal de choses sur les femmes, sur la question des femmes victimes de sorcellerie. Et ça, c'était, on pourra en reparler directement, quelque chose en lien avec l'actualité de ces dernières années. Et puis, je voulais aussi creuser la piste de la maladie mentale, ou des troubles nerveux, des troubles du comportement. Et ça, c'est quelque chose qui correspondait avant tout à une envie personnelle, et puis à ce que je crois être un des derniers espaces véritablement où il y a certainement des choses à dire ou à redire pour un historien.
Au niveau des bornes chronologiques, on est entre le 15e et le 18e siècle. Pourquoi exactement ces bornes-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que c'est vrai que quand on parle de chasse aux sorcières, on imaginerait peut-être quelque chose d'antérieur. Enfin, on parle du Moyen-Âge, donc on se dirait, ouais, ça a dû commencer au 13e ou quelque chose comme ça. Et on n'imagine pas forcément que ça dure jusqu'au 18e.
Oui, mais le 15e siècle, c'est le Moyen-Âge, c'est la fin du Moyen-Âge, hein. Le Moyen-Âge est une période académique, mais il faut bien avoir des périodes ou des outils pour réfléchir sur l'histoire. Donc le Moyen-Âge, mon Moyen-Âge, mais pas que, va jusque dans la première moitié du 16e siècle, hein, jusqu'à l'irruption de la réforme protestante. Jacques Le Goff parlait d'un long Moyen-Âge jusqu'au 18e siècle. Au-delà de cette question de période, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que des sorciers, des sorcières, il y en a eu avant le 15e siècle, il y en a dans toutes les civilisations, certainement, à toutes les époques. On a des éléments qui sont des éléments qu'on va retrouver dans la chasse aux sorcières avant le 15e siècle. Aucun véritablement des éléments de la chasse aux sorcières n'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'agencement à partir des années 1430-1440 d'un certain nombre d'éléments qui sont combinés ensemble pour définir un crime. Un crime juridiquement, judiciairement défini et poursuivi. Donc à partir des années 1430-1440, du milieu du 15e siècle, on a un crime, le crime de la nouvelle secte des adeptes de Satan. C'est vraiment comme ça qu'elle est présentée, dénoncée. Et à partir du moment où on a un crime bien défini, ça n'est pas très compliqué de faire tomber des gens. Et cette persécution des sorciers et des sorcières va traverser les siècles jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà, c'est l'histoire d'une succession de chasses, de vagues de persécutions qui va s'étendre de la première moitié du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, qui va s'éteindre au début du XVIIIe siècle, là où, sur les espaces où elle s'était déclenchée le plus précocement, le Royaume de France, hein, le sud-est de la France actuelle, les Alpes, la région des lacs suisses, la vallée du Rhin, l'est de la France actuelle, et puis un peu plus tardivement, à la fin du XVIIIe siècle, sur des espaces où elle s'était propagée en décalage, je pense à l'Europe centrale, au monde scandinave, voire même au Nouveau Monde, puisque on connaît quasiment tous les fameuses sorcières de Salem. Il y a eu aussi des chasses aux sorcières en Amérique du Nord.
Alors, vous avez dit que les sorciers et les sorcières, ça existait bien en amont, mais qu'est-ce qui va définir, enfin, c'est quoi des sorciers et des sorcières, en fait?
À partir des années 1430-1440, on a une série de textes qui peuvent être des textes juridiques, théologiques ou des actes, hein, des actes de procédure judiciaire, qui décrivent tous, alors certains éléments sont pas tous en place au même moment, hein, mais globalement, une série de textes qui définissent un nouveau crime, le crime de cette secte des adeptes de Satan. Et sorcier ou sorcière, celui qui se rend en volant, le vol est important, et le vol nocturne sur un balai ou un bâton enduit avec de la graisse d'enfant sacrifié, quelque chose qui apparaît très très vite, dès le XVe siècle. Donc celui ou celle qui se rend en volant à la cérémonie des sorciers et des sorcières, qu'on va appeler la synagogue ou le sabbat, dès le début, après les mots divergent encore dans les premières décennies. Et là, à la cérémonie des sorciers et des sorcières, eh bien, il ou elle commet des choses abominables, donc passe un pacte avec Satan, s'accouple avec Satan, qui prend la forme d'un animal, souvent d'un bouc, célèbre ce qu'on appellerait aujourd'hui des messes noires, inversion, profanation de l'hostie, inversion des rites chrétiens catholiques, hein, catholiques, c'est vraiment contre-cérémonie catholique, et puis sacrifie des enfants, cannibalisme d'enfants, c'est quelque chose qu'on va trouver assez fréquemment au sabbat, et enfin jette des sorts, hein, des maléfices pour se venger de ceux dont il veut, avec qui il veut régler des comptes. Donc les éléments qui combinés ensemble constitue le crime, ce que les historiens appellent parfois le concept cumulatif de sorcellerie ou le crime cumulatif de sorcellerie, c'est le vol, la participation au sabbat, la cérémonie des sorciers et des sorcières, et puis le pacte avec Satan. Le pacte avec Satan va laisser des traces puisqu'on va également très rapidement chercher sur le corps du sorcier ou de la sorcière la marque, amputation d'un doigt ou une marque dans les parties intimes, au fond de l'œil, une marque qui est physique et qui témoigne de ce pacte avec Satan. Aucun de ces éléments n'est véritablement nouveau. Le pacte satanique est un très vieux motif qu'on trouve dans l'Orient byzantin dès le premier millénaire, qui va traverser les siècles, la littérature, on connaît tous le pacte faustien. Donc aucun des éléments n'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est leur agencement en quelque chose de cohérent, en un système cohérent qui pour nous paraît absurde, mais qui a un sens pour les hommes du XVe siècle, et puis qui va donc traverser les siècles avec de moins en moins de prégnance dans les croyances, avec une progressive extinction, si je puis dire, sur laquelle on pourra revenir, mais qui va durer 4 siècles. La chasse aux sorcières, ou les chasses aux sorcières, l'expression est commode, mais elle désigne encore une fois une succession en des lieux et à des moments différents d'épisodes de persécution, va traverser les 16e, 17e siècles, avec un paroxysme dans le dernier quart du XVIe siècle et le premier tiers du XVIIe siècle. Disons les années 1570-1580 jusque dans les années 1620-1630, où là on a certainement le sommet des persécutions, en particulier sur les territoires germaniques. Je pense à des principautés épiscopales, à Trèves, à Bamberg, à Eichstätt, voilà, vallée du Rhin, sud-sud-est de l'Allemagne. On atteint certainement le paroxysme de la persécution.
Et au niveau des sources, vous avez travaillé sur à partir de quoi ?
Les sources sont importantes, elles sont nombreuses, elles sont conservées dans les archives. Ce sont des sources judiciaires, hein. On a évidemment des traités. J'évoquais les premiers textes, hein, des années 1430-1440. Je pense au Formicarius de Jean Nider, La Fourmilière. Si on traduit en français, Jean Nider est un dominicain allemand, un observant, donc un dominicain réformateur, un des grands acteurs du Concile de Bâle dans les années 1430-1440. Donc ça, c'est un texte qui est un espèce de panorama de la vie religieuse de son époque en 5 volumes, un des livres est consacré aux sorciers et aux sorcières. On peut avoir des textes d'auteurs laïcs. Je pense au traité de Claude Tolosan, qui est un officier, un juge, hein, en Dauphiné, qui parcourt les montagnes du Haut-Dauphiné, hein, entre Grenoble et Briançon. Donc lui qui est au service du roi, au service du pouvoir laïque, hein, dirait-on aujourd'hui. Et il faut bien avoir à l'esprit que quelques décennies plus tard, passé 1500, ce sont des pouvoirs laïcs qui traquent les sorciers et les sorcières majoritairement. Donc dès les années 1430, 1440, on peut avoir des traités qui émanent d'officiers qui sont des laïcs. On a des textes de procédures judiciaires. Et puis donc dès les années 1430, 1440, 1450, on a des procès. Des procès en Dauphiné, un des foyers de la chasse aux sorciers et aux sorcières, région de Gap, Embrun, Briançon, et puis du côté italien des Hautes-Alpes actuelles, les lacs suisses, la région de voilà, diocèse de Lausanne, Fribourg, Genève, Zurich, la Suisse actuelle. Et puis la procédure, les persécutions vont remonter la vallée du Rhin, se répandre dès la fin du XVe siècle dans l'est de la France, dans la vallée du Rhin, et puis dans le monde germanique au XVIe siècle et un peu partout dans le royaume de France, y compris dans les Pyrénées, fin XVIe, début XVIIe siècle. Donc des centaines de procès, de pièces de procédure qui sont conservés aujourd'hui dans les dépôts d'archives départementales, pas seulement, mais en particulier dans les dépôts d'archives départementales. Aux archives départementales de l'Isère, par exemple, à Grenoble, il y a des dizaines de procédures, et puis d'autres dans d'autres archives, d'autres dépôts d'archives, voilà, avec des grandes disparités quantitatives, qui sont le reflet évidemment de la réalité de la persécution. Il y a des zones où on a moins persécuté qu'ailleurs, je pense au Massif central en particulier, et puis qui sont liés également aux pertes, hein, documentaires, tout simplement, aux destructions d'archives. Mais ce sont des sources judiciaires, des témoignages des aveux obtenus sous la torture ou des témoignages qui, là, ne doivent rien ou pas grand-chose à la... Voilà, à la pression. Il y a des espaces aussi où on a peu utilisé la torture, voire pas du tout, hein. C'est aussi ce qui explique les différences d'intensité dans la persécution. Dans les îles britanniques, par exemple, on n'a pas forcément, je pense à l'Angleterre, utilisé la torture. Il y a des espaces dans lesquels la procédure judiciaire ne reposait pas, n'impliquait pas la question, la torture. Et donc à ce moment-là, on a forcément ces mécaniques, hein, un impact moins important de la chasse aux sorciers et aux sorcières.
Qu'est-ce qui va favoriser l'émergence et le développement de cette chasse aux sorcières à partir du 15e?
Alors c'est un problème compliqué, avec une dimension très totalisante, très globalisante. On ne peut pas expliquer la répression du crime de sorcellerie par un seul facteur. D'abord, il faut encore une fois bien rappeler, c'est une évidence pour l'historien, mais ça va mieux en le disant, qu'il n'y a pas eu de sorciers et de sorcières. Hein. On pourra certainement trouver à travers les siècles, un peu partout, des gens qui se réunissent, qui font des trucs borderline ou même franchement, particulier. On a en tête, voilà, le grenoblois que je suis pense à la secte de l'ordre du Temple solaire, il y a, je sais pas, 20, 25 ans, voilà, un groupe qui s'est immolé par le feu dans les montagnes du Vercors au-dessus de Grenoble. Bon, on a des exemples comme ça, mais ça, ce sont des phénomènes marginaux, voilà, très périphériques. Donc, il n'y a pas eu de sorciers et de sorcières. Le crime de sorcellerie est un crime imaginaire qui correspond à une construction d'intellectuels, des élites, des clercs, main dans la main avec des élites laïques. Et ce crime va correspondre à une véritable psychose, une véritable obsession, qui va nourrir une psychose dans la population. Et rencontrer, hein, ça c'est indéniable, les peurs, les angoisses, et puis les attiser dans la population. Donc le crime de sorcellerie, c'est l'histoire d'une rencontre entre une construction, qui est une construction idéologique, intellectuelle, venue d'en haut, et puis des croyances et des pratiques qui sont des croyances et des pratiques de la base, de la masse des fidèles. Je pense à des pratiques ou des croyances pré-chrétiennes ou mal christianisées. Au premier chef, des pratiques de médecine, ce qu'on appellerait aujourd'hui des médecines douces, médecine par les plantes, un certain nombre de, alors ce qu'on, au 15e siècle, on appelait les superstitionnesses, des superstitions, des mauvaises croyances, voilà, des pratiques pré-chrétiennes, voilà, donc ça, indéniablement, ce sont des pratiques qui vont être satanisées, qui vont être considérées par les pasteurs, par des clercs, comme des pratiques d'adhésion, des marques d'adhésion à la secte des sorciers et des sorcières. Mais tout ceci n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu au départ, avant tout, une croyance qui est la croyance dans un complot satanique, un complot qui monte en puissance et que l'historien peut voir véritablement monter en puissance au 12e, 13e siècle. Voilà, la fin du Moyen-Âge est vraiment marquée par cette croyance chez les clercs et chez les élites qu'il y a un complot satanique contre l'ordre du monde voulu par Dieu, et cette hantise du complot satanique atteint certainement un degré maximum dans la première moitié du 15e siècle. C'est lié au problème du temps, le grand schisme, l'Église divisée en deux, un pape à Avignon, un pape à Rome, c'est lié aux offensives de la peste, au problème de la guerre, donc à des éléments contextuel, conjoncturel, mais c'est aussi plus profond que ça. C'est vraiment, si je voulais simplifier les choses, la croyance que l'Église catholique romaine, l'Église latine, est une forteresse assiégée, hein, véritablement menacée par un vaste complot. À ce moment-là, il n'y a plus de bonnes ou de mauvaises pratiques de magie. Toutes les pratiques de magie sont assimilées à une magie satanique. Ça, c'est quelque chose aussi de nouveau. On pouvait encore distinguer jusqu'au XIVe siècle ce qu'on appellerait aujourd'hui une magie blanche, une magie positive, ou en tout cas qui n'était pas marque d'adhésion à Satan, et puis une magie satanique. Là, désormais, voilà, toute pratique magique est adhésion à Satan. Je crois qu'il y a aussi, c'est un facteur qui est indéniable, quelque chose d'important qui est la misogynie cléricale, qui est l'obsession et la méfiance à l'égard de la femme, qui atteint un degré qui est certainement dans les discours inégalé, dans sa radicalité, dans sa violence, en lien avec des réformes religieuses. J'évoquais Jean Nider tout à l'heure, qui est un réformateur religieux. Il y a un certain nombre de réformateurs religieux, franciscains, dominicains, des hommes d'église, qui veulent réformer la société avec selon des valeurs qui sont des valeurs du monde du cloître, qui sont des valeurs religieuses, et qui le font main dans la main avec les pouvoirs politiques. Et dans cette affaire, la misogynie, le discours misogyne de l'Église, hein, extrêmement sévère et négatif à l'égard des femmes, eh bien, va être à l'origine d'une féminisation très rapide de ce crime de sorcellerie. Au point de départ, il y a autant de victimes, si on se place au milieu des années, enfin au milieu du 15e siècle, autant de victimes parmi les hommes que parmi les femmes, hein, dans les procès de sorcellerie. En quelques décennies, la féminisation de ce crime est très claire. À la fin du 15e siècle, vers 1500, on peut considérer désormais que les deux tiers, voire les trois quarts des victimes sont des femmes. Donc, il y a un mélange pas évident à analyser, de différents éléments. Et après, les facteurs vont varier évidemment d'une région à une autre, d'un moment à l'autre. Je dirais que c'est avant tout l'histoire d'une obsession, qui est l'obsession d'un complot satanique, qui coïncide avec la maturité de la christianisation. L'Europe n'a jamais été aussi chrétienne, mais craint de ne pas l'être assez à la fin du Moyen-Âge. Et donc on va traquer les moindres poches, hein, les moindres traces de mauvaise christianisation ou d'insuffisante christianisation. Et puis, cette obsession du complot satanique rejoint également les préoccupations des pouvoirs, puisque les pouvoirs politiques vont très rapidement s'emparer de la lutte contre l'hérésie, et le crime de sorcellerie va servir finalement à réprimer tous ceux qui sont considérés comme menaçants. Voilà, j'aurais peut-être dû commencer par cela, c'est-à-dire par la question de l'hérésie. L'hérésie à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, c'est une erreur dans la foi, c'est une erreur dans la croyance, c'est un crime contre Dieu, un crime de majesté. Si vous basculez un siècle plus tard, au début du XIVe siècle, pensez au procès des Templiers, qui est certainement le procès le plus célèbre, un procès théologico-politique du XIVe siècle, mais il y en a d'autres. Au début du XIVe siècle, l'accusation d'hérésie est une accusation qui sert à combattre tout ceux qui sont considérés comme menaçants, rebelles, désobéissants, désobéissants à l'Église, mais aussi au pouvoir princier, à la majesté du prince. À partir du XIVe siècle, le concept de majesté ne sert plus seulement à désigner Dieu, mais aussi celui qui le représente sur terre. Et vous avez des pouvoirs princiers, je pense au pouvoir royal capétien, mais pas seulement, hein, qui utilise ce concept de majesté, le concept de crime de majesté. Pensez à ce qui va devenir le crime de lèse-majesté. Et à partir du XIVe siècle, la lutte contre l'hérésie devient une lutte contre tous ceux qui sont considérés comme dangereux, menaçants, contre l'ordre du monde voulu par Dieu, y compris l'ordre politique, et c'est ce qui explique que les pouvoirs politiques vont utiliser la lutte contre l'hérésie pour affirmer leur justice, hein, et pour affirmer, pour s'affirmer. Et vous avez au XIVe siècle, et puis surtout au XVe siècle, avec ce crime de majesté, un instrument, avec ce crime de sorcellerie, pardon, un instrument majeur dans l'affirmation des pouvoirs qu'on appellerait aujourd'hui des pouvoirs politiques. On peut prendre l'exemple que je trouve très très bon, du duché de Savoie. Le comté de Savoie est érigé en duché avec Amédée VIII, qui va même être pendant 10 ans un antipape, hein, sous le nom de Félix V, hein, dans le contexte de l'affrontement entre le concile de Bâle et puis la papauté romaine. Et Amédée VIII, en 1430, promulgue un énorme code de loi qui s'appelle les Statuta Sabaudiae, qui a été édité récemment par une équipe d'historiens. Et dans les Statuta Sabaudiae, les statuts de Savoie, vous avez près de 500 articles qui réglementent à peu près l'ensemble de la vie dans le duché de Savoie. Et les Statuta Sabaudiae commencent, hein, par un article contre les Juifs et puis un article contre les sorciers, invocateurs de démons, devins. Et donc la lutte contre les sorciers est placée en tête de cet énorme code de loi qui a pour prétention de réglementer l'ensemble de la vie dans le duché de Savoie. On est en 1430 à un moment où Amédée VIII cherche à affirmer son pouvoir princier et sa majesté, la majesté du prince. Le duché de Savoie, c'est finalement le rêve de création d'un royaume intercalé entre la péninsule italienne, l'Empire, hein, le Saint-Empire romain germanique, et puis la Confédération des cantons suisses qui se forment, et le Royaume de France. Le duché de Savoie, avec comme capitale d'abord Chambéry et puis ensuite Turin à partir du début du XVIe siècle, le duché de Savoie, c'est une construction politique avec un prince qui, au XVe siècle, utilise clairement la chasse aux sorciers et aux sorcières au service de l'affirmation de son pouvoir, de sa puissance, de sa justice. Donc vous vous retrouvez avec un crime qui est un crime imaginaire, qui sert en définitive à réprimer tous ceux qui sont considérés comme des obstacles au pouvoir. Et dans le jeu de rivalité entre justice princière, justice ecclésiastique, et puis des justices, parfois des justices locales, ceux qui font les frais de cette rivalité entre justices, ce sont de simples individus, des hommes, des femmes, pas forcément des gens du petit peuple, hein, mais vous avez parmi les victimes, hein, des notaires, des notables, vous avez un certain nombre d'individus qui peuvent faire les frais de l'affirmation de ces justices. Et puis je disais que le crime de sorcellerie est avant tout au départ quelque chose qui est théorisé par les élites et qui crée une psychose dans la population. On voit très bien dans les procédures contre les sorciers et les sorcières la place et la part importante des règlements de compte au sein des communautés villageoises, règlements de compte au sein de familles, entre voisins. On peut s'accuser de sorcellerie entre belle-mère et belle-fille, entre voisins pour une vache qui est décédée de façon inexpliquée, des récoltes qui ont été ravagées, parfois des rivalités qui sont des querelles de clochers, parfois d'une grande médiocrité. Les règlements de compte, hein, la médiocrité de la nature humaine peut éclater au grand jour à travers ces procédures. On se dénonce, et une fois qu'on a dénoncé ou qu'on a été dénoncé, il est très difficile de sortir de cette machine à broyer que constitue l'interrogatoire de la procédure inquisitoire, étant donné que le crime de sorcellerie, c'est le crime absolu. C'est vraiment ce crime imaginaire d'adepte de Satan. C'est un concentré des choses les plus abominables. C'est le crime absolu contre l'Église chrétienne, catholique, romaine. Et puis c'est un concentré de ce qu'on peut, de ce qu'on peut imaginer de plus abominable. Si vous y réfléchissez, même pas 10 secondes, bah vous allez trouver évidemment profanation de l'hostie, des inversions des inversions de rites catholiques, mais vous allez trouver aussi du sacrifice d'enfants, cannibalisme d'enfants, accouplement avec le diable, accouplement avec des animaux, le diable qui prend la forme d'un animal, bref, des choses qui se tiennent en général sur des espaces qui sont des espaces éloignés de l'église paroissiale, du village, hein, aux marges du terroir, espaces de forêt, espaces de clairière. Mais vous avez à la fin du XVIe, au XVIIe siècle, hein, vous avez aussi des procédures contre des sorciers et des sorcières qui peuvent toucher des villes. Et dès le XVe siècle, hein, la fameuse vaudrie d'Arras, qui est une affaire de chasse aux sorciers et aux sorcières à Arras vers 1460, on est en pleine ville. Au début du XVIIe siècle, Bamberg est le théâtre dans les années 1610-1620 d'une persécution importante, y compris de notables. On est en plein milieu urbain et là on est très très loin de la figure de la sorcière, vieille femme, marginale, guérisseuse ou sage-femme persécutée. Des notables peuvent faire l'objet d'accusations de sorcellerie, également.
Alors, vous avez dit que c'était le plus grand crime à l'époque, mais est-ce que ça fait un effet inverse, c'est-à-dire, et là, je me permets d'utiliser un néologisme, est-ce qu'il y a une sorciérisation du crime? Est-ce que un meurtre va être suspecté comme un acte de sorcellerie ou pas du tout? On arrive à cloisonner les choses. Est-ce qu'il y a cette volonté-là d'englober plein de crimes sous l'aspect sorcier-sorcière?
Oui, il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect-là. Donc je dirais qu'on peut rentrer par les deux bouts, hein. Vous avez un crime qui est défini et du même coup on sait précisément qui l'on cherche. Et vous avez là encore quasiment dès les origines et puis à l'époque moderne des chasseurs de sorciers et de sorcières, des laïcs qui sont spécialisés, hein, qui vont à travers les villages, hein, dénoncer des sorciers et des sorcières. Vous avez des professionnels qui sont pas forcément des inquisiteurs ou des ecclésiastiques. Donc on cherche précisément un crime. Et puis vous avez donc ce que vous évoquiez, c'est-à-dire un crime qui va servir une espèce de grosse machine à uniformiser, non pas à lessiver et à laver plus blanc que blanc, mais à noircir plus noir que noir. Et indéniablement, et ça on peut le voir à partir des témoignages, à partir des débuts de procédure. Et puis c'est tout à fait dans la mentalité de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne, on va faire rentrer dans certaines catégories. Là, on touche à quelque chose qui est encore un casier à ajouter à cette analyse totalisante ou globalisante, c'est l'histoire de la procédure judiciaire qui est la nôtre en Occident, hein. C'est-à-dire l'histoire de la procédure inquisitoire. Et on en est les héritiers dans un système qui est le système de la procédure inquisitoire, qu'on va distinguer de la procédure accusatoire qu'on trouve dans les pays anglo-saxons encore aujourd'hui. Si vous voulez, schématiquement, La procédure accusatoire, c'est, voilà, il y a un problème entre deux individus, il faut que celui qui accuse l'autre prouve sa culpabilité et que celui qui est en face se défende. Et c'est, pour ainsi dire, un face-à-face, il va falloir prouver et en face on peut se défendre. Bon, sans simplifier exagérément, on se souvient certainement de l'affaire Strauss-Kahn, qui surprenait la façon même dont ça a pu être résolu, a surpris, hein, en France, parce qu'on n'est pas habitué, hein, mais c'est véritablement, voilà, face à face, hein, accusateur ou accusatrice, en face on se défend, et ça peut déboucher sur des choses qui sont un peu surprenantes, y compris des arrangements, des conciliations. Dans la procédure inquisitoire, qui se développe en Occident au XIIe et XIIIe siècle, c'est l'enquête, l'inquisitio, qui est au cœur de la procédure. Ça, c'est un vieil héritage romain qui est remis au goût du jour dans le contexte de la lutte contre l'hérésie au XIIe siècle, et puis ensuite qui est adopté par les justices laïques. L'enquête est au cœur du système. C'est-à-dire que, tiens, on me dit qu'il y a un problème quelque part. C'est la question de la fama, la réputation, la renommée, c'est difficilement traduisible en dehors de ces mots, renommée, réputation. Un individu a une mauvaise fama, bon, donc je vais enquêter. Et après l'enquête, je décide s'il y a ou non un procès. Et donc l'enquête va être, à partir du XIIIe siècle, au cœur de, j'ai envie de dire, de toute une série de procédures, pas seulement la procédure de l'inquisition, parce qu'on va penser, si je dis inquisition, on va penser à l'inquisition, c'est-à-dire à ces types qui se baladent un peu partout en Occident pour traquer des hérétiques, mais bien au-delà, l'enquête, l'inquisition, est au cœur de toutes les procédures judiciaires, y compris les procès de canonisation. La canonisation, la procédure qui vise à faire un saint ou une sainte officiellement, hein, va reposer sur la fama sanctitatis d'un individu, et puis on va faire une enquête, et ensuite il y aura un procès, et c'est un vrai procès. Eh bien, le procès de sorcellerie, c'est un procès également, bien sûr, qui repose sur l'enquête et sur la procédure qui est la procédure qui est à l'origine de notre justice moderne. Donc, si vous voulez, on fait des enquêtes, on interroge des témoins, et on le sait bien dans la mentalité tardo-médiévale, le procès de Jeanne d'Arc, par exemple, en est un bon exemple. Hein. C'est pas un enregistrement. On interrogeait Jeanne pendant sa captivité, et puis en fin de journée, les interrogateurs se réunissaient et puis faisaient la synthèse de l'interrogatoire. Et faisait aussi rentrer dans une catégorie du vraisemblable, vous voyez. Donc c'est pas un enregistrement direct, c'est le dixit quod. Il a dit que, elle a dit que. Voilà. Donc à partir des témoignages, eh bien les interrogateurs font rentrer dans un certain nombre de catégories qui correspondent évidemment à ce qu'ils croient, à ce qu'ils recherchent. Et le crime de sorcellerie indéniablement facilite, bien sûr, hein, cette modélisation, cette déformation qui fait que on peut avoir une multitude d'accusations au point de départ, y compris les plus floues, et puis qui vont déboucher à la fin de la procédure sur quelque chose qui est extrêmement clair ou cohérent. Hein. C'est-à-dire la participation à la secte de Satan et un crime qui est un crime d'adhésion satanique. Vous voyez. Je crois que le système même qui est à l'origine de notre procédure judiciaire, de notre justice, dans ses balbutiements, dans sa mise en place, facilite, hein, cette espèce d'harmonisation, uniformisation. Dans un contexte qui est un contexte véritablement d'obsession satanique.
Mais on interroge ou on suggère des réponses ?
On interroge. Alors évidemment, quand il y a torture, on fait accoucher d'une vérité et on crée de la vérité par l'aveu.
On torture les suspects ou on torture on va pas torturer les témoins ?
Non, on torture les suspects. On torture les suspects et on crée de la vérité par l'aveu. Là encore, hein, c'est la préhistoire de notre justice moderne, hein, ici, qui est l'aveu, confessio, c'est le même mot, je crois que c'est extrêmement significatif, pour désigner ce que l'on avoue devant des juges ou des interrogateurs, et puis ce que l'on avoue en confession à son directeur de conscience ou au curé de la paroisse. C'est confessio, c'est l'aveu. Voilà. Donc, on est entré à la fin du Moyen-Âge dans le temps du faire dire. Il faut faire avouer ce qu'on a véritablement au plus profond de soi. Les médiévaux parlaient d'occulta cordis, les secrets du cœur. Donc, le système de la confession d'un simple fidèle va reposer sur le fait de faire dire les mauvaises pensées, ce qu'on a au fond de soi. Le système de l'interrogatoire va reposer sur la même idée qu'il faut faire dire ce que l'on a au plus profond. La différence, c'est que on a affaire ici à des individus qui sont soupçonnés d'être ce qu'il y a de pire comme hérétique, c'est-à-dire des adeptes de Satan. Si vous voulez, l'hérétique traditionnelle, si je puis dire, qu'on traque au XIIe, XIIIe siècle, ou même encore, hein, parce qu'il y a d'autres formes d'hérésie au XVe siècle, il ne cache pas. Un hérétique, définition du XIIIe siècle, c'est quelqu'un qui est dans l'erreur, hein, de la foi, mauvaise croyance, qui persiste dans cette mauvaise croyance, et en plus qui cherche à la propager. Donc je dirais que dans la vision un peu classique de l'hérésie, l'hérétique, c'est clair, il ne cache rien, au contraire même il persiste dans son hérésie, donc c'est pas trop compliqué à combattre. Le sorcier, l'adepte de Satan, il cache. Hein, il cache, et donc il va vraiment falloir faire avouer, hein, les occulta cordis, hein, les secrets du cœur, essayer de lui faire, de faire sortir ce qu'il cache et ce qu'il y a au plus profond de lui. Donc c'est un combat qui est un combat absolu, un secret contre secret, où tous les coups sont permis. Donc on va utiliser la torture. Au bout du processus, on va brûler, éventuellement noyer, mais la plupart du temps brûler de façon à faire disparaître, hein, totalement de la surface de la terre, si je puis dire, cette hérétique absolue. Et puis vous avez, donc dans ce système-là, si vous voulez, on ne sait pas de quoi on est accusé, on ne sait pas qui vous accuse, il n'y a pas d'avocat, donc il est extrêmement facile de créer de la vérité par l'aveu. Ce qui est avoué, ce qui est mis ensuite, hein, sur papier ou sur parchemin, c'est la vérité. Et là, vous avez un système qui est un système, je le dis souvent à mes étudiants, qui est le système de fonctionnement des régimes totalitaires. Hein, pensez au procès stalinien de la fin des années 30, à l'aveu, le film de Costa Gavras, enfin, et à la réalité voilà, de l'Europe de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense aussi certainement à ce qui se fait aujourd'hui en Corée du Nord ou ailleurs. C'est-à-dire que on fait avouer des choses qui sont absurdes, hein, qui sont totalement incohérentes, mais on fait avouer de la vérité. Voilà. À partir du moment où c'est avoué, on considère que voilà, donc c'est vrai. C'est comme ça qu'on peut faire tomber tout et n'importe qui. Alors je le dis aussi à mes étudiants, la différence c'est qu'au XVe siècle, on est au XVe siècle et il y a de la croyance, vous voyez. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu, hein, de-ci, de-là, de l'instrumentalisation. C'est toujours très difficile de savoir quelle est la part de la croyance et quelle est la part de l'instrumentalisation. Et avant même la chasse aux sorciers et aux sorcières, pensez au procès des Templiers, pensez au procès posthume de Boniface VIII. Philippe le Bel a traîné en procès Boniface VIII après sa mort, le pape, en le faisant accuser, hein, de pacte avec Satan, d'avoir un démon personnel, et vous avez des témoins, hein, qui tout ça a été édité, on a des sources, donc on se dit toujours, l'historien se dit toujours face à ce type de sources, mais quelle est la part de la croyance, quelle est la part de l'instrumentalisation politique? La seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'on n'est pas dans le cynisme politique, chimiquement pur. Voilà. C'est la grande différence avec le XXe siècle, les procès staliniens de la fin des années 30, où, sans être contemporanéiste, je peux dire sans trop m'avancer qu'il y a de la pathologie mentale et puis du cynisme politique, c'est-à-dire qu'on règle des comptes, on fait tomber des adversaires politiques. Vous voyez, c'est la différence avec le contexte de la fin du Moyen-Âge et de la première modernité, la part de la croyance. Donc, ce qui est très important d'avoir à l'esprit, c'est que on crée de la vérité par l'aveu. Et à la fin du Moyen-Âge, il y a une forme de fascination devant cette procédure judiciaire, devant le pouvoir de l'écrit. Voilà, on découvre que comme on ne peut pas prouver avec des procédures que nous on appellerait aujourd'hui scientifiques, eh bien, on va prouver par l'aveu. Et ça, c'est l'origine de notre justice, encore une fois. À défaut de pouvoir administrer la preuve, eh bien, ce qui prime, ce qui crée de la vérité, c'est l'aveu. Et c'est dans, encore une fois, ce contexte large, général, qu'il faut replacer la chasse et la persécution des sorciers et des sorcières. On a un crime imaginaire, mais que l'on poursuit et que l'on fait avouer dans un cadre qui est un cadre de judiciaire, de mise en place de la procédure judiciaire. Et à partir de là, évidemment, eh bien, vous pouvez faire tomber des individus sans aucune difficulté, d'autant plus que ce qui donne à la persécution des sorciers et des sorcières son caractère massif, parce qu'on parle de milliers de victimes, hein, de dizaines de milliers de victimes. Alors là aussi, hein, si vous vous baladez sur Internet, vous pouvez trouver des chiffres qui sont des chiffres totalement fantaisistes, parce que la comparaison avec les génocides du XXe siècle a souvent été faite. Il n'y a pas eu 1 million de victimes, hein, de la chasse aux sorciers et aux sorcières, mais certainement aux alentours d'une centaine de milliers d'individus, hein, des dizaines de milliers de personnes. Mais vous voyez, sur 4 siècles, hein, donc ça n'est absolument pas un génocide. C'est encore une fois une succession de vagues de persécutions qui font des dégâts abominables dans des villages, sur des régions, en quelques années, en quelques semaines. Vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'il faut analyser le phénomène. Donc vous avez un caractère massif parce qu'il y a la participation au sabbat. Et donc, quand on tient un individu et qu'on l'interroge, on lui fait avouer des noms, et on veut des noms. Et on veut des noms, et à partir de là, eh bien, ensuite, hein, quand vous êtes cité dans une procédure, quand quelqu'un vous a cité au cours d'un interrogatoire, eh bien, vous avez de très fortes chances ou malchances de vous retrouver ensuite inquiété pour sorcellerie. Donc, ce qui donne à la persécution son caractère massif, c'est ce qui est au cœur du crime de sorcellerie, la participation à la cérémonie satanique, qui est une cérémonie collective. Et puis à côté des gens donc, qui sont interrogés avec l'usage de la torture, vous avez des témoins, effectivement, et vous avez aussi des témoignages qui sont des témoignages d'individus qui ne sont pas soumis à la torture. Et ça, ces sources-là sont très intéressantes pour l'historien, parce qu'évidemment, y a de la pression psychologique, il y a de la pression sociale, que les juges suggèrent et font plus que suggérer, mais c'est à travers ces sources-là que l'historien peut atteindre une couche qui est ce que j'appelle, pour simplifier, la part du réel. C'est-à-dire des pratiques qui ont réellement été effectuées, des croyances, qui étaient des croyances répandues dans la population. Voilà. Alors, ce sont des pratiques de médecine qui vont être combattues au XVIe siècle en particulier par la médecine académique, par la médecine universitaire. Ce sont des croyances religieuses mal christianisées, pré-chrétiennes. C'est là aussi, hein, dans ces témoignages, que vous pouvez arriver à cerner les règlements de compte et puis la particulière fragilité de certaines populations et de certains individus. Je pense en particulier aux sages-femmes, guérisseuses, sages-femmes, accoucheuses. Voilà, des femmes qui avaient un rôle important dans les communautés, notamment les communautés villageoises. Mais quand tout se passait bien. Et puis, eh bien, le jour où il y avait un souci, on leur tombait dessus. Et là, on voit très clairement, hein, vous avez des espaces, je pense, aux Vosges. Hein, ça a été étudié par une collègue historienne à l'université de Strasbourg. Hein, vous avez des chasses aux sorcières qui ne concernent que des guérisseuses ou des sages-femmes. Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est dans les témoignages, dans la part des traces écrites, évidemment, parce qu'on est rien, l'historien n'est rien, n'a pas d'enregistrements oraux. Hein. C'est dans la part de ces traces écrites obtenues sans la torture qu'on peut arriver à discerner ce que j'appelle la part du réel, et puis la psychose également, hein, la façon dont les populations ont été sensibles à cette pastorale de la peur répandue par les juges, les inquisiteurs, les théologiens à partir du XVe siècle. Ça n'est pas très compliqué de créer une psychose dans la population, hein. On en a des exemples quasiment tous les jours. Dans notre monde actuel, y compris dans la société française, voilà, c'est pas quelque chose de très très compliqué.
Et c'était des exécutions publiques ou pas? Parce que est-ce qu'il y avait le désir de montrer l'exemple de ce qui pouvait arriver si jamais on faisait quelque chose qui pouvait être accusé de crime de sorcellerie?
Absolument, le crime de sorcellerie est le crime absolu contre le christianisme, contre l'Église chrétienne, catholique, romaine, contre l'ordre du monde voulu par Dieu, c'est-à-dire l'ordre politique, social et politique, soutenu par les élites, hein, les élites tout autant laïques qu'ecclésiastiques. À partir de là, la répression de ce crime absolu doit donner lieu à une justice qui est plus que jamais une justice exemplaire, au sens, j'ai envie de dire, premier du terme, l'exemplum, dans le vocabulaire de la prédication, à partir du XIIIe siècle, c'est la petite histoire à visée édifiante. C'est la petite histoire que les prédicateurs vont utiliser, on appellerait ça aujourd'hui une morale, une petite histoire avec une morale, de façon à faire passer un message dans la population des fidèles. Ça a donné exemple, évidemment, en français. Et donc la justice exemplaire, c'est une justice qui a une valeur, hein, c'est une continuation de la prédication, de la pastorale, par la violence. Il s'agit de montrer aux fidèles ce qu'il advient de celles et de ceux qui eh bien, constituent un danger contre cet ordre, l'Église, hein, et puis d'une façon plus générale, encore une fois, contre Dieu et puis contre le prince, hein, qui est l'émanation de la volonté divine, hein. J'insiste vraiment sur ce lien étroit entre les élites laïques et ecclésiastiques. Donc la justice doit être une justice exemplaire, ça veut dire très concrètement, y compris dès le XVe siècle, dans les massifs des Hautes-Alpes, les massifs alpins, Alpes du Sud, Alpes du Nord, ça veut dire que la moindre sorcière, le moindre sorcier qui est arrêté va être ramené dans sa paroisse d'origine. On a des sources qui sont des sources là aussi importantes pour l'historien, une semaine, 2 semaines de transfert à cheval, encadré par une dizaine d'hommes. Ça coûte des sous. Ça veut dire qu'il faut bah, s'arrêter dans des auberges. Ça veut dire qu'il faut des chevaux. Ça veut dire qu'il faut des cordes. Donc c'est des frais. On a de véritables notes de frais qui nous sont parvenues. Alors on va payer ces frais-là en particulier sur la confiscation des biens des victimes quand il y en a, et on ramène, hein, au prix de plusieurs jours, hein, parfois de chevauchée ou de trajet, on ramène le sorcier ou la sorcière dans son village d'origine, dans sa paroisse d'origine, où il est exécuté, hein, il ou elle est exécuté devant. Bah, voilà, ses amis, ses connaissances, sa famille. Nicolas Rémy, qui est un juge lorrain de la fin du XVIe siècle, et on a avec Nicolas Rémy certainement un des chasseurs de sorciers et des sorcières les plus fous furieux qu'on ait pu avoir en Occident, était réputé, hein, pour d'abord estimer qu'il fallait tout autant combattre, hein, et soupçonner les enfants que leurs parents, et puis pour faire courir autour du bûcher de leurs parents les enfants, hein, petites filles et petits garçons de celles et ceux qui étaient condamnés. Donc la justice exemplaire est une justice qui a pour but véritablement, hein, de semer la crainte. Je dis souvent, hein, voilà, aux étudiants, la pastorale de l'Église pendant des siècles a moins reposé sur la peur que sur la terreur que sur la crainte. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, il faut craindre, mais on peut faire quelque chose pour son salut. Le but n'est pas de créer de la terreur pour la terreur. Le but est d'inciter les fidèles à la pénitence. Le but est de les inciter à œuvrer en faveur de leur salut. Mais le christianisme est une histoire qui se finit bien. Et le discours de l'Église chrétienne est un discours optimiste, si vous voulez, mais qui va, évidemment, hein, il ne s'agit pas de le nier, pendant des siècles, reposer sur la crainte. Là, avec la répression de la sorcellerie, point de départ, la démarche, encore une fois, est une démarche qui repose sur des fondements qui sont ceux de la prédication, hein, c'est-à-dire c'est une continuation de la prise de parole, une continuation abominable, hein, par la violence, mais la justice doit être exemplaire, mais il est certain qu'on bascule dans quelque chose que je peux appeler de la terreur, hein, de la terreur, avec quelques individus qui sont des individus, effectivement, qui sont très extrêmes, hein, je pense aux auteurs du Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières à la fin du XVe siècle, deux dominicains, Sprenger et Institoris, hein, Henri Institoris et Jacques Sprenger, où là on a des individus qui tiennent un discours extrêmement extrêmement violent qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrémiste, hein, le problème c'est que beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur la chasse aux sorciers et aux sorcières, parce que ça vend bien, parce que ça se diffuse bien aujourd'hui, ne lisent que ne jettent un œil que sur le marteau des sorcières. Or, il y a d'autres textes, hein, qui montrent que vous avez des individus, j'évoquais tout à l'heure Claude Tolozan, ce juge delphinal dans les Alpes, hein, dans la première moitié du XVe siècle. Claude Tolozan a plutôt un profil de bon fonctionnaire, vous voyez, quelqu'un qui estime que c'est vraiment son rôle, sa mission, hein, d'œuvrer pour le pouvoir delphinal, royal, en Dauphiné. Et on n'est pas sur un profil, si vous voulez, de fou furieux, extrémiste religieux, fondamentaliste, pour utiliser des mots qu'on utiliserait aujourd'hui, mais que j'utilise assez régulièrement avec mes étudiants, hein, à propos du XVe siècle. Parce que quand vous voulez réformer la société sur la base de valeurs qui sont des valeurs religieuses, venues du monde du cloître, quand vous tenez un discours qui est extrêmement misogyne, qui s'en prend à la femme, au contact, à éviter le contact avec la femme, qui s'en prend aux danses, qui s'en prend un discours de normalisation des comportements, qui est un discours véritablement qui vise à discipliner de façon extrêmement austère, c'est la boîte à outils du petit fondamentaliste, hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit très clairement au XVe siècle, mais chez des réformateurs religieux, mais avec un spectre dans les positionnements. C'est-à-dire que tous n'adhèrent pas de la même façon et tous ne vont pas aussi loin dans les positionnements extrêmes. Alors on est au XVe siècle, il ne s'agit pas de faire d'anachronisme, mais dès le XVe siècle, vous voyez très bien comment vous avez au sein même de l'Église, hein, parmi les clercs, des individus qui ne se situent pas au même endroit, hein, dans sur le curseur, hein, de la répression, de la normalisation violente. Et en revanche, vous avez des mécanismes, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qu'on peut aujourd'hui très clairement distinguer dans des mouvements qui sont des mouvements religieux dans la sphère chrétienne ou en dehors de la sphère chrétienne. Hein. Je pense évidemment à l'islam, mais le christianisme aujourd'hui a aussi ses fondamentalistes. Hein. Je vais tirer sur les néopentecôtistes, hein, et tous ceux qui aujourd'hui traquent Satan, y compris en Afrique, en s'en prenant à des enfants sorciers. Mais une partie du néopentecôtisme, pas tous, hein, mais aujourd'hui sur la planète Terre, développe un discours qui est un discours, hein, de lutte contre Satan. Au nom de la théologie de la prospérité, si Dieu veut que tout aille bien, et si ça ne va pas bien, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est Satan. Et donc, il faut traquer Satan. On n'en parle plus beaucoup, mais il y a encore quelques années, les ONG alerter sur ce phénomène. Et là, vous avez des ressorts qui sont des ressorts que qui sont des ressorts qu'on peut vraiment, que l'historien peut vraiment distinguer dans la chasse aux sorciers et aux sorcières du XVe siècle et de l'époque moderne.
Et qu'est-ce qui va expliquer qu'au XVIIIe, la chasse aux sorcières va s'atténuer, voire disparaître?
La chasse aux sorcières va s'atténuer avant le XVIIIe siècle, progressivement. Alors là encore, les facteurs sont divers, en tout cas il y en a plusieurs. D'abord sur les espaces où la persécution s'était déclenchée le plus précocement. Je vais prendre l'exemple du royaume de France, parce que, encore une fois, le berceau de la chasse aux sorciers et aux sorcières, ce sont les marges, hein, orientales du royaume de France, les régions de rivalité. Les Alpes, hein, sont un espace de rivalité, hein, un espace de christianisation, hein, de milieux montagnards, d'espaces qui sont considérés par l'Église comme insuffisamment christianisés, mais ce sont aussi des espaces de rivalité entre pouvoirs politiques, royaume de France, duché de Savoie, l'Empire, le pouvoir impérial, la Confédération des cantons suisses, et puis à des échelles inférieures, hein, d'autres pouvoirs. Sur ces espaces-là, la persécution des sorciers et des sorcières va commencer à faire l'objet de freins dès la fin du XVIe siècle. On voit clairement comment le Parlement de Paris commence à casser les procédures. Donc le Parlement de Paris, c'est la plus haute, hein, cour de justice, c'est la cour de justice devant laquelle on peut faire appel d'un jugement dans une juridiction inférieure. Et le Parlement de Paris va, dès les années 1570-1580, commencer à casser systématiquement les procédures de sorcellerie. Et on va commencer à décriminaliser le crime de sorcellerie. C'est-à-dire que, pour dire les choses de façon forcément un peu schématique, on a le sentiment, justifié, c'est schématique, mais c'est encore une fois important et tout à fait justifié, on a le sentiment que le pouvoir, ou des pouvoirs, hein, ici celui du roi de France, à prétention centralisatrice, ou qui voulait, hein, travailler à la centralisation, à un moment donné, après avoir utilisé le crime de sorcellerie pour s'affirmer, affirmer leur justice, eh bien ne tolère plus des phénomènes de répression, parce que ce pouvoir, hein, et le pouvoir absolutiste désormais du royaume de France est certainement le cas le plus exemplaire, le plus paradigmatique, eh bien le pouvoir à ce moment-là désormais va commencer à considérer, hein, que ces procédures sont des procédures qui nuisent en définitive à sa centralité. Et on va commencer, eh bien, à lutter, hein, contre ces juges ou ces justices locales qui, dans le royaume ou aux marges du royaume, traquent des sorciers et des sorcières, et finalement, bien, deviennent désormais plus troublantes ou plus synonymes de désordre, et finalement, contre-productives, si vous voulez, et on va progressivement, à partir des années 1570-1580, lutter contre ces procédures. Donc on assiste à un phénomène qui est un phénomène à rebours, où des pouvoirs qui avaient utilisé ce crime de sorcellerie au service de leur affirmation, désormais le combattent ou cherchent à en limiter les dégâts, parce que ce pouvoir n'a plus besoin de s'affirmer par le crime de sorcellerie. Voilà. Je crois que cet élément, hein, qui est évidemment pas facile à décrire, et qui est forcément décrit de façon un peu schématique, est essentiel. Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit que tout ceci est une histoire de croyance, de psychose, qu'on parle d'un phénomène qui s'est étalé sur 4 siècles, et que sur 4 siècles, il est normal que des croyances ou des psychoses perdent de leur prégnance dans la population, qu'il s'agisse des élites savantes, cultivées. On aurait évidemment forcément tendance, et c'est justifié, à penser que, eh bien, dans les élites cultivées, parmi les élites cultivées, on va moins croire, et en tout cas arrêter de croire plus précocement que dans le reste de la population. Mais globalement, je crois que, utilisons des mots déchristianisation à terme, sécularisation, bon voilà, c'est la croyance aux sorciers et aux sorcières, bien, va progressivement perdre de sa prégnance dans la société. On brûle encore des sorciers et des sorcières à la fin du XVIIIe siècle. On a certainement persécuté des individus encore au XIXe siècle, peut-être même sur certains espaces au XXe siècle. Vous savez, l'historien va travailler à partir de procédures dont il a des traces dans les archives. Mais on n'a pas de traces des lynchages, des phénomènes de bannissement, de persécution locale, par rapport en particulier à des marginaux, à des marginales, à des femmes mises au ban de la communauté villageoise, jeunes ou moins jeunes. Bon, voilà, là je suis forcément flou, mais à n'en pas douter, on a eu et on a peut-être encore ici ou là, voilà, des phénomènes qui évidemment ne se traduisent pas par des bûchers, évidemment ne sont pas des phénomènes qui vont être verbalisés ou pas avoir la même clarté que l'accusation d'adhésion à Satan, mais certainement qu'à travers le XIXe siècle et jusqu'à l'époque contemporaine, on a pu avoir des phénomènes localement de persécution de sorciers ou de sorcières ou d'individus dans un magma de croyances.
Et pour terminer, je voudrais qu'on revienne sur le dernier chapitre du livre qui est, comme vous l'avez dit en début d'émission, une nouveauté par rapport à la précédente édition. C'est un chapitre dans lequel vous faites le lien entre sorcellerie et maladie mentale pour finir par cette conclusion au titre formidable « Satan sur le divan ».
Oui, parce que je crois que le lien avec la maladie mentale est un lien qu'il faut effectuer. Alors maladie mentale, mais sans aller jusqu'à la maladie mentale, je pense aussi à des phénomènes de dérèglement nerveux ou de troubles nerveux qui ont dû jouer certainement un rôle. Alors d'abord, on le voit dans certaines procédures, dans certains témoignages, il y a du côté des victimes, très certainement, des troubles qu'aujourd'hui on connaît, qu'on explique plus ou moins bien. J'ai des cas précis en tête, hein, mais aujourd'hui, certains troubles comme la spasmophilie. Alors, je ne parle même pas de l'épilepsie, qui est un trouble qu'on connaissait depuis l'Antiquité et que les médiévaux identifient relativement bien et n'associent pas forcément, loin de là, à la possession. En revanche, je pense notamment à la spasmophilie, qui est un trouble nerveux, hein, et là on n'est pas dans le registre de la pathologie mentale, mais qui va en particulier toucher des jeunes femmes au sortir de l'adolescence ou des jeunes adultes, et puis qui va s'estomper en avançant en âge, qui va se traduire par une hypernervosité musculaire. Voilà, je pense à la spasmophilie, je pense aussi à des crises d'angoisse, des crises certainement que ces phénomènes-là ont donné lieu à des explications qui étaient des explications en termes de possession, d'ensorcellement. Vous voyez, ce que je vous dis là est pas très intellectuel, mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit ce type d'explication. Je dis aussi souvent à mes étudiants, et pas seulement, que il n'y a aucune raison de penser qu'à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, il y avait moins de troubles qui sont des troubles de personnalité multiple, des troubles de schizophrénie. C'est compliqué, la schizophrénie, c'est plus ou moins bien expliqué. Alors je n'y connais pas grand chose, mais dans le domaine de la psychiatrie, de la médecine, hein, on a beaucoup de mal avec un certain nombre de troubles, hein, qui vont être placés dans la catégorie générique de troubles schizophrènes. Il n'y a aucune raison de penser qu'à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne, il y avait moins de cas, hein, de troubles de personnalité multiple, de troubles schizophréniques. Donc voilà, ça c'est une grille d'analyse qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, et ça c'est certainement plus difficile, et c'est ce qui m'intéresse particulièrement, ça répondait à peut-être la grande question que je posais au début de mon ouvrage dès 2013, qui est d'expliquer pourquoi Cette forme de régression intellectuelle que constitue la création du crime de sorcellerie, y compris en ce qui concerne le vol, puisqu'au XVe siècle, on croit que réellement les sorciers et les sorcières volent, que le vol est une réalité. Alors que, et sans entrer dans les détails, jusqu'ici, des individus qui volaient, et des femmes en particulier qui parcouraient des étendues, des grandes étendues en volant, c'était clairement des rêves ou des illusions. Illusions diaboliques, rêves, mais on ne croyait pas dans la réalité du vol. Or, au XVe siècle, majoritairement désormais, il y a toujours eu des sceptiques, mais majoritairement, on croit dans la réalité du vol. Quelqu'un comme Jean Bodin, le juriste Jean Bodin, à la fin du XVIe siècle, est un petit peu un des théoriciens de la République hein, et de nos systèmes politiques. Jean Bodin écrit un ouvrage de démonologie et il adhère à fond à la réalité du vol. Hein. Et vous lisez Jean Bodin et vous n'avez pas le sentiment d'être devant un esprit éclairé ou voyez quelqu'un qu'on mettrait dans la case modernité. Donc, une de mes grandes interrogations, c'est comment expliquer la régression intellectuelle, pour utiliser un terme encore une fois qui est certes qui paraît anachronique, mais enfin bon, une forme de régression intellectuelle que constitue cette psychose et la création de ce crime de sorcellerie au XVe siècle, alors que je pourrais multiplier les exemples, 1430, Brunelleschi, le dôme de la cathédrale de Florence, prouesse architecturale, Brunelleschi c'est le théoricien de la perspective, Léonard de Vinci naît en 1452, c'est les années de mise au point de l'imprimerie, bon, on est dans ce que l'on appelle la Renaissance, qui n'est pas une période, mais un ensemble de mutations culturelles, intellectuelles, technologiques. Le XVe siècle est un siècle très contrasté, extrêmement contrasté, d'accélération culturelle, intellectuelle, d'entrée dans notre modernité à bien des égards, et en même temps, c'est un siècle extrêmement violent, et sur le point qui nous intéresse, c'est un siècle de régression intellectuelle. Donc, je le dis souvent, hein, le désenchantement du monde s'accompagne de processus de réenchantement permanent. On a au quotidien, on le voit bien avec le complotisme, avec le mouvement QAnon, avec ce qui se passe aux États-Unis, mais pas seulement, des processus de croyance qui sont des processus de régression intellectuelle dans un monde qui est un monde une société d'hypermodernité. Donc c'est compliqué le progrès, c'est pas quelque chose de linéaire ou de. Donc il y avait cette interrogation de ma part, et je crois que ce qui caractérise les 14e et 15e siècles, c'est qu'il existe désormais une théologie, le mot est apparu au 12e siècle, c'est-à-dire une science de Dieu et un discours sur Dieu, qui est l'objet hein, de la réflexion des intellectuels dans les universités. Il existe désormais, fin 13e, début 14e siècle, c'est en place une démonologie, un discours sur le démon. Thomas d'Aquin a théorisé le pacte avec Satan dans sa somme de théologie. Les intellectuels, hein, véritablement, ont un discours qui consiste à dire que Satan, toujours inférieur à Dieu, n'a jamais été aussi présent, aussi puissant, aussi menaçant, et qu'il existe, je crois, désormais également, alors sinon une anthropologie, un discours sur l'homme, mais une conscience de plus en plus importante dans ce que j'appelle la fragilité humaine. Je n'ai pas le temps et ça n'est pas le lieu ici de rentrer dans des textes ou des témoignages, mais Jean Nider, hein, ce dominicain observant qui est un des premiers chasseurs de sorciers et de sorcières, dénonciateur de la nouvelle secte des sorciers et des sorcières, est aussi quelqu'un qui écrit, et c'est la dernière phrase de son Formicarius, hein, souvent de tels gens ont plus besoin d'un médecin, hein, d'un médecin de l'âme. Jean Nider écrit qu'il faut faire attention et que les inquisiteurs ne doivent pas envoyer sans discernement, sans prendre beaucoup de précautions, certains individus au bûcher, parce qu'ils peuvent se tromper. Et Jean Nider décrit il prend un certain nombre d'exemples. Il décrit des individus, je pense à un universitaire, un prof, un professeur viennois hein, de Vienne en Autriche, qui a l'obsession d'attenter à son intégrité physique avec un couteau, donc quelqu'un qui a une espèce d'obsession, hein, qu'il puisse voilà s'auto-mutiler, hein, voire se tuer. Il décrit d'autres phénomènes qui aujourd'hui sont des phénomènes. Alors il parle de la mania. qui sont des phénomènes que clairement on va faire rentrer dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs, ou je sais bien que c'est à la mode, mais des troubles bipolaires, hein, là, voilà, avec des phases maniaques, hein, de grande excitation, et puis ensuite des phases de dépression. Donc c'est assez fascinant de voir comment Jean Nider décrit des choses qui sont des choses qui parlent, et pas seulement à des médecins ou à des psys, hein, et puis les pères de l'histoire de la psychiatrie, qui étaient en général des psychiatres dès le début du 19e siècle, se sont beaucoup intéressés à des affaires de possession ou des témoignages, bon, les questions de la Jeanne d'Arc ou les histoires de sorcellerie, parce qu'ils se rendent compte que y a bien des parallèles à faire. Et donc je crois qu'au 14e et 15e siècle, je pourrais multiplier les exemples, on a une conscience désormais que l'homme est complexe, que l'homme est fragile, et commence à apparaître un espace pour, d'une part, le traumatisme. On a un médecin, Jacques Despard, qui est un médecin parisien de la première moitié du XVe siècle, qui écrit des choses qui sont absolument formidables pour un historien, parce que vous avez un homme qui dénonce en particulier le traumatisme que peut avoir la prédication de certains religieux sur la population. Des gens qui créent de la peur et qui finalement, eh bien, voilà, sont à l'origine de troubles, hein, chez certains fidèles. Et puis Jacques Despard décrit un individu qui s'est suicidé, hein, qui s'est défenestré dans un contexte de, c'est le contexte de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon à Paris, voilà, donc contexte de grande insécurité. On est en train de voir apparaître les prémices de ce que du trauma, hein, de voilà, du traumatisme. Et donc il y a au XVe siècle, chez des gens comme Jean Gerson, un clerc, un intellectuel, qui est un homme modéré, chez des gens plus extrêmes comme Jean Nider, chez des médecins, une conscience que l'homme est complexe, que l'homme est fragile, qu'il y a certes des individus qui sont plus fragiles que d'autres, et en particulier les femmes, parce que in fine, de toute façon, c'est toujours le diable, hein, qui est derrière tout ça, hein, parce que le diable va s'emparer d'individus qui sont des individus fragiles, mais qu'il faut faire attention et que à ne pas envoyer sans discernement ces individus-là au bûcher. Voilà. Et je crois que c'est en prenant conscience de la place que l'on commence à faire à la fragilité humaine, au trouble, à la maladie mentale, à ce que nous on va appeler la maladie mentale, qu'on peut expliquer, en tout cas contribuer à expliquer, cette étrange cohabitation entre la modernité de la Renaissance, avec un R majuscule et beaucoup de guillemets, et puis la régression intellectuelle que constitue la croyance aux sorciers et aux sorcières. Jamais on a autant insisté sur le très vieux discernement des esprits, la discretio spirituum, c'est-à-dire jamais on a autant braillé à la face de la population. Il faut faire attention à bien discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable, parce que jamais Satan n'a été aussi menaçant. Mais, et là-dessus je pense qu'on a beaucoup moins écrit, beaucoup moins réfléchi, jamais on a autant eu ou commencé à avoir conscience qu'il faut faire attention, et parce que certains individus ne sont pas des possédés ou des adeptes de Satan, mais des gens qui sont fragiles, qui se croient possédés parfois, ou qui croient avoir fait des choses alors que, eh bien, ils les ont rêvés ou qu'ils les ont imaginés. Voilà, ils ne sont pas tout à fait maîtres de leur esprit. Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la préhistoire de la question du discernement. Voilà, dans quelle mesure un individu a tout son discernement au moment où il commet un acte au XVe siècle, et dans quelle mesure est-ce que voilà, il a réellement commis cet acte, ou il croit connaître cet acte, et voilà, il faut faire preuve de discernement. Et c'est quelque chose de, à la fois de très simple et de très complexe que je suis en train de vous raconter là, mais je crois que c'est cette conscience, hein, croissante, et puis qui va encore s'accélérer au XVIe siècle, au fur et à mesure d'ailleurs que la croyance au sabbat, au vol, se fait de plus en plus, enfin commence à perdre du terrain, Vous avez alors le médecin Jean Vire, hein, qui est un médecin allemand, voilà, est une figure un peu exemplaire de la Johannes Vire, de la voilà du, de la résistance aux chasseurs de sorciers et de sorcières. On prend souvent ce Jean Vire comme le symbole de la des sceptiques et du scepticisme à l'égard de ces croyances, mais il y en a eu d'autres, et on voit bien comment dès le XVe siècle ou aux alentours de 1500, certains individus, je pense à Saint-Forin Champier, qui est un médecin lyonnais, qui écrit un traité vers 1500, eh bien, sont sceptiques à l'égard de ces accusations, alors se protègent en invoquant toujours, in fine, encore une fois, la présence de Satan, mais voilà, ont conscience que il y a des gens qui sont des gens fragiles, qui sont des gens malades, et qu'il faut pas les envoyer au bûcher avec trop de précipitation.
Merci Ludovic Vialet. Spectre.